Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour.
Vous publiez Parler cerveau, le titre de ce livre que vous publiez avec votre épouse Karine. Et c'est publié chez Odile Jacob. Vous êtes neurologue, vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Les auditeurs de France Inter aussi ont peut-être encore en mémoire vos chroniques l'été dernier sur le cerveau, ce qui a d'ailleurs inspiré ce livre. Parlez-vous cerveau? Alors je comprends quand c'est un neurologue qui parle, mais pour les non-initiés que nous sommes, à quoi peut bien servir, nous servir, les non-initiés, de mieux connaître ce qui se passe sous notre boîte crânienne?
Bah écoutez, je pense qu'il y a deux objectifs principaux en fait. Le premier, c'est que évidemment, en comprenant mieux comment fonctionne notre cerveau, autrement dit, en connaissant mieux les rouages des fonctions mentales qui sont associées au fonctionnement de notre cerveau, comme notre mémoire, notre perception, mais aussi notre conscience, nos émotions, donc rentrer dans les coulisses de notre vie mentale, on peut dire pour aller assez rapidement, mais c'est une manière aussi, c'est un chemin de connaissance de soi. C'est pas le seul chemin, il y a d'autres choses évidemment, on peut faire de la philosophie, on peut s'intéresser à l'histoire des cultures humaines, tout ça est très important, et il y a une autre fibre, d'après moi c'est ça un peu le message des contemporains, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a accumulé une masse d'évidence, une masse de connaissances, de découvertes sur le fonctionnement du cerveau, qui nous parle directement de qui nous sommes, de notre identité, de notre subjectivité, et à ce titre, je pense que pour mieux se connaître, c'est un chemin, une source de connaissances, même on pourrait parler de culture cérébrale avec Karine, mon épouse, c'est comme ça qu'on en parle, je pense qu'une culture cérébrale minimale peut nous aider à mieux nous connaître. Et la deuxième, peut-être, c'est sur la société. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de
l'aspect citoyen, on va en parler. Je m'arrête juste sur cette attitude socratienne, connais-toi toi-même. Vous mettez sur le même plan la connaissance scientifique du cerveau et la psychanalyse ou la philosophie?
Je ne mets même pas sur le même plan, parce que la psychanalyse c'est un objet culturel, un objet thérapeutique aussi qui est intéressant, mais qui n'a pas vocation à d'ailleurs lui-même, les psychanalystes le disent eux-mêmes, non, ne sont pas dans une démarche scientifique, dans le sens où on n'a pas nécessairement à prendre au pied de la lettre le résultat d'une théorie ou d'une et ce qui se passe d'important dans les psychothérapies en général, c'est qu'on va réussir par un phénomène intersubjectif, donc en parlant et en pouvant échanger avec quelqu'un d'autre, avec un professionnel, un expert, un psychothérapeute, on va pouvoir jouer sur ce que j'appelle nos fictions, c'est-à-dire la manière de laquelle nous nous racontons notre vie, qui nous sommes à nos propres yeux. Et quand ces fictions, ces schémas narratifs sont une source de souffrance, pour des raisons variées...
Ça, c'est la psychanalyse.
Hein. Et voilà, mais donc, vous voyez, ça, c'est pas une science. C'est un art d'exploiter la manière de laquelle les échanges intersubjectifs vont pouvoir être une source d'amélioration. Et la science, c'est différent. Je parle pas comme ça en tant qu'inquisiteur, mais c'est juste qu'en termes de catégorie d'objets, la science, là, par contre, a vocation à mettre en évidence des lois fondamentales, des lois de la... Et là, l'intérêt, c'est que les lois en question visent notre subjectivité.
Alors, connaître notre cerveau, c'est connaître les neurosciences, ça concerne notre apprentissage, et vous le disiez à l'instant, ça a donc un impact sur l'aspect citoyen de notre vie.
Oui, vous avez raison, et ça c'est très récent. C'est-à-dire que moi j'ai 49 ans, il y a 25 ans, 30 ans, on me demandait moins, quand je dis moins, je parle pas seulement à moi, mais à mes collègues, on nous demandait moins notre avis en fait sur des questions de société, parce que force est de constater que depuis une vingtaine d'années, les progrès des neurosciences font que nos connaissances s'invitent dans beaucoup de débats citoyens. On le voit très bien pour l'éducation, par exemple, actuellement, dans le conseil scientifique du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et à mon collègue et ami Stanislas Dehaene, qui est neuroscientifique, qui illustre en fait que les progrès des neurosciences dans l'éducation n'ont pas vocation à se substituer aux pédagogues ou aux enseignants, mais d'apporter une source de connaissances supplémentaires. Donc on a par exemple l'éducation, mais également la justice, la prise de décision, l'influence des citoyens, etc., la santé, donc... la deuxième raison, c'est ça, c'est de mieux faire nos choix de citoyens en étant éclairés sur les questions qu'on nous pose.
Vous évoquez l'influence des neurosciences sur la justice. Expliquez-nous, racontez-nous cette histoire. Comment les juges peuvent être influencés dans leurs décisions, parfois plus sévères, selon les horaires de la journée?
Oui, c'est une étude il y a quelques années qui est très amusante, parce que quand on pense à neurosciences et justice, on pense avant tout à la façon d'expertiser est-ce qu'un individu est responsable de ses actions. Et ça, c'est évidemment, donc est-ce quelqu'un qui a trucidé quelqu'un d'autre, est-ce qu'il l'a fait en toute connaissance de cause ou pas? Et ça, c'est aussi une des missions... Mais ce que vous pointez, c'est qu'il faut aussi s'intéresser aux juges, pas seulement aux coupables.
Oui, je parle des juges.
Et le juge, donc, c'est cette étude israélienne qui avait été publiée il y a quelques années dans PNAS, qui est une grande revue scientifique, et qui s'est intéressée en fait à la sévérité d'une cour qui jugeait des petits délits. Et si vous voyez les graphiques de l'étude, ils sont absolument saisissants. Le matin, lorsque donc après le petit déjeuner, la cour commence, la sévérité est extrêmement réduite, puisque 70% des coupables en fait sont graciés. Et puis progressivement dans la matinée, ce chiffre de 70% descend jusqu'à 30%. Donc vraiment, ça s'inverse. 70% maintenant des gens sont condamnés. Et puis, on voit qu'en fait, au moment où on arrive vraiment à l'acmé, il y a 70% de sévérité. Les gens, les juges s'arrêtent, c'est la pause du petit déjeuner, quoi, en tout cas de la collation matinale vers 10h30, 11h. Et immédiatement après, ils remontent plutôt à 70% en fait de clémence. Et ça redescend à nouveau jusqu'à l'heure du déjeuner. Et ça, donc, autrement dit, une corrélation très forte entre la faim, ce que les juges ont dans l'estomac, détermine pour partie leur sévérité, comme dit le vieux proverbe.
Mieux vaut se faire juger après un repas plutôt qu'avant.
Voilà, c'est une information cruciale.
Alors, parmi les 34 mots ou expressions que vous explorez dans ce livre, parlez-vous cerveau, Lionel Nakache, toujours donc en relation avec ce cerveau, il faut d'abord connaître un mot, le neurone. Nous en avons près de 100 milliards. Pourquoi faut-il commencer par le neurone? Au début était le neurone?
Oui, on peut dire au début était le neurone, c'est vrai. C'est que le cerveau, évidemment, cet organe très complexe, pour arriver à essayer de décrypter le fonctionnement de ces 100 milliards de neurones qui parlent entre eux, il faut commencer par savoir comment fonctionne un neurone élémentaire, un peu la brique élémentaire de ce cerveau. Et effectivement, il y a des découvertes importantes, notamment une découverte qu'on peut décrire comme ça, c'est qu'il y a un peu plus d'un siècle, 1905-1906, il y avait un grand débat dans notre domaine. En fait, c'est le début des neurosciences contemporaines, de la théorie du neurone. Et en gros, il y avait deux camps. Il y avait un camp qui considérait qu'il y avait des neurones, mais que ces neurones, en fait, étaient mélangés les uns aux autres. Autrement dit, ils n'étaient pas séparés vraiment les uns des autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Et l'autre tenant, qui s'appelle Ramón y Cajal, qui était un grand chercheur espagnol, génial.
Qui disait qu'on n'avait qu'un seul neurone.
C'était l'autre, ça c'était Golgi. Voilà. Mais lui avait compris en fait ce qu'on peut appeler l'individualisme neuronal, c'est-à-dire que nos 100 milliards de neurones sont 100 milliards d'unités codantes qui chacune ont un statut, notamment de repos ou d'action. Il s'avère qu'il avait raison. Et en faisant cette grande découverte, il nous a ouvert la porte en fait à un mouvement dans lequel on est toujours aujourd'hui, c'est que dès que vous comprenez que vous avez 100 milliards de neurones dont chacun peut être dans deux états d'information, ça veut dire que vous avez 2 puissance 100 milliards configurations d'états cérébraux, ça veut dire qu'on ouvre la porte au cerveau comme une machine à représenter le monde et nous-mêmes et nos émotions. Et cette découverte-là, une fois qu'on la comprend bien, et alors il faut lire cette chronique pour vraiment comprendre les sous-bassements, elle nous permet de comprendre la situation dans laquelle on se trouve près de 150 ans plus tard.
Et à propos du neurone, l'humiliation, c'est de s'entendre dire qu'on n'a plus que 2 neurones.
Voilà, certains ont fait les frais.
Et ce n'est pas très flatteur. Est-ce que d'ailleurs, à propos des idées reçues, est-ce que nous perdons des neurones tout au long de notre vie?
Ah oui, nous perdons des neurones tout au long de notre vie.
Ça a quelles conséquences?
Ça dépend, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment directement le nombre de neurones dans l'absolu qui va compter, c'est l'architecture de votre cerveau, son fonctionnement aussi. Et notamment, vous savez que ce qui compte plus que les neurones, c'est la qualité des synapses, donc la qualité des nombres de connexions et de l'architecture fonctionnelle de cet arbre dendritique et de ces connexion neuronale. Donc, et ensuite, évidemment, il y a le lien avec la santé, à quel point le vieillissement physiologique se distingue d'un vieillissement pathologique, d'une maladie. Et ça, c'est une question très importante.
Parlez-vous cerveau, c'est une question, et c'est le titre donc de votre livre, Lionel Nakache, que vous avez coécrit avec votre épouse, la romancière Karine Nakache. Quel était d'ailleurs l'apport de la littérature dans vos recherches scientifiques?
En fait, l'apport principal, c'était de prendre conscience que moi, évidemment, je connais les neurosciences parce que c'est mon activité de chercheur et de médecin, mais que Karine, en vivant avec moi et en s'intéressant à ces questions qui nous intéressent tous, eh bien, depuis plus de 20 ans, on vit ensemble. C'était en fait approprier ce langage-là. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de voir comment cet exercice que nous avions conduit et que nous conduisons à deux, on peut le conduire à plus que deux. Et arriver à autoriser à ce que les citoyens s'approprient ces mots du cerveau pour arriver à s'approprier ces connaissances fondamentales.
Pour que les citoyens soient bilingues en France, on français espère, en et cerveau. Cas, donc. Voilà. Et ça paraît chez Odile Jacob pour ce livre écrit à quatre mains. On va reprendre cette interview après la revue de presse de Frédéric Pommier. Il y aura aussi Patricia Martin. Il y aura aussi vos questions, les auditeurs. Dites-nous la relation que vous entretenez avec votre cerveau. Le standard est ouvert, c'est au 01 45 24 7000. À tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end, intervenu.
Parlez-vous cerveau, c'est donc le titre du livre que vous co-signez avec votre épouse Lionel Nakache. Vous êtes neurologue, professeur à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Les sciences du cerveau, un domaine dont vous démontrez dans ce livre qu'il est moins abscon qu'il n'y paraît si on prend la peine de lire ces quelques lignes avec aussi tellement d'impact dans notre vie quotidienne. Ce livre, c'est finalement une bonne façon de s'approprier cette langue du cerveau qui nous paraît a priori si étrangère. Patricia Martin.
C'est un livre enthousiasmant, franchement. Bon, alors, un mot sur la mémoire, professeur Nakache, c'est que c'est un sujet évidemment qui nous préoccupe tous. Il y a des maladies graves qui la touchent, mais en dehors de ça, est-ce que c'est normal que la mémoire soit imparfaite? Est-ce qu'il faut même se réjouir de ne pas se souvenir de tout?
Oui, vous avez raison. Il faut déjà le connaître, il faut déjà être lucide de ça. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que notre mémoire n'est pas une copie fidèle. Ce que nous avons vécu le 15 mai 1985, quand on s'en souvient 20 ans après, on ne va pas rouvrir un fichier PDF, si vous voulez, qui va nous, ou bien une vidéo qui va nous redonner, qu'on aurait stocké quelque part. Et un souvenir, en fait, réellement, c'est un matériau vivant. Et vivant, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose au présent. On va uniquement saisir quelques éléments, on ne va pas tout saisir. Et ces éléments, on va les colorer par l'état dans lequel on est, l'état émotionnel, ce que l'on pense, etc. Ça va se stocker comme ça. Et lorsqu'on va essayer de se ressouvenir plus tard, ce souvenir va se réactiver en se remodifiant à nouveau par la situation présente dans laquelle on est. Et ces sortes de métamorphoses d'un souvenir, elles sont permanentes. Autrement dit, nos souvenirs, comme vous l'avez parfaitement dit, sont en permanence en transformation.
Et quand on est plusieurs à avoir vécu la même chose, on n'en a pas le même souvenir.
Et on s'en rend compte, c'est une bonne expérience pour se rendre compte que nos souvenirs sont extrêmement marqués par notre subjectivité. Une fois qu'on le sait, c'est important. Et il faut éviter deux écueils. Un écueil qui consisterait à dire, puisque nos souvenirs ne sont pas une copie parfaite, on s'en fiche des souvenirs, avec une sorte de relation derrière, voire, ou bien à l'inverse, d'être complètement, de prendre nos souvenirs pour argent comptant. Et d'avoir cette bonne distance face à nos souvenirs, ça fait partie de notre position.
Et ça se situe dans l'hippocampe, que vous nommez dans ce livre le siège de la mémoire, le palais de la mémoire, plus exactement. L'occasion de dire aussi que ce cerveau est finalement un terme générique. D'ailleurs, on confond cerveau, mémoire, on y met un peu tout ce qu'on y veut.
Oui, c'est vrai. Et puis donc, tout commence par dissocier les choses. Savoir que le cerveau, il y a plusieurs structures. Il y a le cortex, par exemple, qui est vraiment l'écorce du cerveau. Souvent, l'écorce, on pense que c'est pas important. Et bien, dans le cerveau, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est le plus profond dans le cerveau, c'est ce qui se passe dans la surface du cerveau, non pas dans les profondeurs. Donc, on peut commencer, si vous voulez, comme vous le disiez, avoir dans ce puzzle du cerveau, avoir une sorte de carte de géographie qui nous permette de nous repérer et de comprendre un peu les bases de son fonctionnement.
Et est-ce que le cerveau a changé? C'est-à-dire, par exemple, le cerveau de l'homme qui a inventé le feu, est-ce que c'est le même que le cerveau de l'homme qui a inventé Internet?
Alors, le cerveau change, évidemment, mais la constante de temps de l'évolution génétique des cerveaux, cette constante de temps, elle est à voir autour de centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Autrement dit, et c'est là, c'est un point fondamental, c'est que depuis que l'histoire existe, l'histoire c'est la naissance, c'est la découverte l'invention de l'écriture et de la lecture, il y a à peu près 6000 ans. Et bien depuis 6000 ans, c'est un clin d'œil pour l'évolution génétique. Autrement dit, quand on naît aujourd'hui, ou quand un bébé humain est naissé il y a 6000 ans, ou il y a 2000 ans à Athènes ou ailleurs, nous naissons avec le même cerveau. Donc notre cerveau n'a pas changé génétiquement, mais par contre, du fait de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que notre cerveau est programmé génétiquement pour être modifié par ce qu'il vit, par nos expériences avec l'environnement, on peut commencer à comprendre les mécanismes biologiques même de la culture. Comment est-ce qu'avec le même cerveau, on peut inventer des choses, faire des choses différentes?
C'est d'ailleurs l'un des chapitres de votre livre à propos du cerveau de demain. Vous expliquez qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'intelligence artificielle, la pratique excessive d'Internet. C'est pas ça qui va changer et modifier notre
disons
cerveau.
Disons qu'en tout cas, je n'ai pas un jugement catégorique, ni tout positif, ni tout négatif. Je pense qu'il faut rester, par contre, il faut rester lucide parce qu'il y a des risques, par exemple, d'interruption de la pensée, etc., d'être en permanence coupé par des messages. Mais en soi, ces révolutions ne sont pas nécessairement et pas systématiquement négatives, bien au contraire.
Lionel Nakache, on va aller au standard avec une première question sur le cerveau, une question de Nadia. Bonjour Nadia.
Bonjour, merci de sélectionner ma question. Mais écoutez, j'ai une fille qui souffre d'épilepsie qui est apparemment généralisée. On est toujours en recherche, on est à l'hôpital à Lyon. Et j'avais parlé du neurofeedback, c'est-à-dire la façon de modifier la réaction du cerveau, voir sa plasticité, voir si quand il y a des myoclonies ou quelque chose qui apparaît qui prévient la crise d'épilepsie, on peut pas donner un chemin différent. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien.
Alors, on va passer la parole, évidemment, au professeur Lionel Nakache. Je voudrais juste préciser qu'il n'est pas question à l'antenne de France Inter de faire des consultations médicales. Ça doit se passer dans un cabinet. Cela dit, Lionel Nakache va vous répondre.
Oui, bonjour madame. Donc rapidement, c'est vrai, en dehors, sans contexte de consultation, effectivement, dans l'épilepsie, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise en charge et un avis d'un neurologue, notamment d'un neurologue souvent spécialisé en épileptologie. Et à Lyon, il y a des collègues extrêmement éminents dans cette discipline. Et ce que vous mentionnez, c'est important, c'est que dans le traitement, il y a à la fois ce qu'on appelle l'hygiène de vie, c'est-à-dire connaître les patients, et votre fille sans doute connaît les conditions dans lesquelles ces crises peuvent plus ou moins se manifester. Deuxièmement, il y a des traitements médicamenteux très efficaces il est important de prendre et de manière vraiment supervisée par son médecin. Et puis, comme vous le disiez, il y a une perspective qui consiste à essayer de modifier la dynamique des crises quand on les sent. On appelle ça les aura, A-U-R-A, c'est-à-dire les premiers signes d'une crise d'épilepsie. Et souvent, les patients ressentent eux-mêmes et mettent au point des stratégies, soit des stratégies cognitives, penser à quelque chose ou respirer d'une manière différente, ou avoir, comme vous le dites, par le biofeedback, qu'on nous renvoie certains éléments de notre fonctionnement cérébral pour essayer de l'intérieur de modifier. Et cette piste-là, elle existe, elle est absolument authentique, simplement il faut lui donner sa bonne place, ni une place toute puissante au détriment des médicaments, mais la combiner avec ça. Donc absolument, c'est une piste d'avenir et qui est déjà explorée, hein, comme vous l'avez mentionné.
Lionel Nakache, dans votre livre « Parlez-vous cerveau », il y a un chapitre sur le cerveau assimilé à une société, et vous faites le parallèle d'ailleurs entre le cerveau et la mondialisation, une mondialisation dans laquelle d'ailleurs l'excès de communication s'apparenterait justement à une crise d'épilepsie. Expliquez-nous ça.
Oui, alors absolument, c'était un essai précédent qui s'appelle « L'homme raisonnable », réseau écrit comme un réseau, c'est-à-dire qu'effectivement, un des points de la mondialisation qui fascine tout le monde et qui étonne, c'est que les lieux dans lesquels nous vivons se ressemblent le plus les uns avec les autres. Autrement dit, de plus en plus souvent, on peut prendre un avion, faire 3-4 heures d'avion et arriver dans un endroit qui est en gros le même que celui dont on vient. Et ce paradoxe-là, j'appelle ça le paradoxe du voyage immobile, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple de voyager en termes de prix, de sécurité, de durée. Et pour autant, paradoxalement, une fois qu'on a voyagé, on a l'impression qu'on n'a pas voyagé. Et une fois qu'on s'était posé cette question, j'ai réalisé qu'en fait, dans le cerveau, il y a quelque chose de similaire. Quand les régions du cerveau fonctionnent plus, communiquent entre elles plus que de raison, plus qu'à l'état normal, eh bien en général,
ça crée des crises.
Eh bien ce qu'elles communiquent, c'est très pauvre, c'est très identique, c'est très dédifférencié, c'est la même chose, et ça correspond effectivement, comme vous l'avez dit, à une crise d'épilepsie, d'où par analogie, essayer de poser le concept de crise d'épilepsie, non pas d'un cerveau, mais d'une société, et de décrypter la mondialisation par cette analogie.
Lionel Nakache, quel crédit accordez-vous aux récentes études de deux Norvégiens qui laissent entendre une chute de notre intelligence, en tout cas dans les pays développés, le QI qui régresserait depuis près de 40 ans, ça vaut quoi ça?
Alors écoutez, c'est une nouvelle étude importante, mais qui s'inscrit dans un débat qui existe depuis déjà depuis les années 90 à peu près. Pour commencer par juste un élément de repère important, il y a une chose dont on est vraiment certain, c'est que depuis les années 50, entre les années 50 et les années 90, le QI moyen, donc le quotient intellectuel moyen des sociétés occidentales dans lesquelles c'est mesuré, a augmenté de manière considérable, c'est-à-dire en gros 20 points de QI en 30 ans, d'accord. Et ces 20 points de QI, comme on le disait avec Patricia, c'est à cerveau identique, c'est-à-dire qu'on est avec le même, c'est pas notre cerveau qui génétiquement s'est modifié, ça veut dire que c'est essentiellement la nutrition, l'éducation, la culture qui ont permis de faire ces progrès, de les généraliser. Et ça, on en est certain. Maintenant, le problème, c'est qu'on arrive à des chiffres dans lesquels on voit plus, on appelle ça l'effet Flynn, F-L-Y-2-N, c'est le nom du chercheur qui avait décrit ça. Depuis, on est arrivé, un peu comme pour les performances sportives, etc., ou la taille, ou d'autres paramètres, un peu aux limites. On a l'impression que maintenant, ça n'évolue plus beaucoup. Alors, ça, c'est les certitudes. Maintenant, les questions, c'est que comme ça n'évolue plus beaucoup, quand on mesure ces variations, ben parfois on trouve d'une année à l'autre une petite augmentation, une petite diminution. On ne sait pas si on est au niveau d'une saturation ou si ça diminue. Et pour vous donner un exemple, on a gagné 20 points. Et là, l'étude norvégienne dont on parle, c'est des variations de 0,3 points de QI par an. Donc, on est dans une... On a besoin de temps pour savoir si on atteint le maximum ou s'il y a vraiment un déclin, ça on n'en est pas
sûr
du tout.
Il y a des biologistes qui vont plus loin que vous et qui estiment que l'impact des perturbateurs endocriniens notamment, ça ne fait plus de doute sur nos capacités cognitives. Est-ce que c'est votre point de vue?
Alors il faut signaler, c'est un sujet dans lequel qui m'intéresse, je lis les articles mais je ne travaille pas directement sur, sur ce sujet-là, mais en faisant une veille bibliographique, je pense qu'il faut être comme d'habitude extrêmement lucide sur les facteurs de risque. Moi, je pense notamment aux interruptions du cours de la pensée par des messages en permanence, notamment chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Ça perturbe nos stratégies cognitives, nos apprentissages, le temps de lecture possible. Donc tout ça, les perturbateurs endocriniens, il faut les étudier. Mais si vous voulez, il faut se garder. En science, il y a souvent une chose, c'est quand vous voyez la fragilité de votre résultat, on n'est pas très sûr. On sait que ça varie de 0,3 points. Est-ce que c'est une saturation ou pas? Et un discours extrêmement... quand le discours est trop sûr de lui, cette discordance entre un fait scientifique qui est encore en questionnement et une affirmation extrêmement certaine. Et sûre d'elle, en général, c'est une porte d'idéologie. Donc, il faut se méfier de ça.
Il nous reste quelques secondes, Lionel Nakache, pardon de vous précipiter. Que vaut l'idée reçue qu'on utiliserait qu'une infime partie de notre cerveau? C'est le mythe des 10% que vous évoquez.
Oui, alors, en réponse sur un pied en une seconde, mais non, on utilise en permanence 100% de notre cerveau, voilà.
Et non pas 10%.
Oui, mais par contre, ce 100% n'est pas fixe. Autrement dit, par nos stratégies cognitives, par la plasticité, on peut en faire autre chose. Donc voilà, tout n'est pas perdu, on peut passer un bon dimanche avec ces nouvelles.
Parlez-vous cerveau avec un point d'interrogation, donc ce livre pour se réapproprier ce qui se passe sous notre boîte crânienne.
Et pour se distraire, c'est drôle aussi, il y a plein d'humour.
Et pour se distraire aussi et pour apprendre à maîtriser cette approche de notre cerveau, vous signez avec votre épouse Lionel Nakache. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu nous éclairer ce matin.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.